Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Oui, beaucoup d'incendies de forêt au Québec, mais bon, pendant ce temps-là, la vie continue et dans le crime organisé, ben des fois la vie arrête. Il y a une autre tête qui est tombée dans l'organigramme de la mafia aujourd'hui, le mafieux Francesco Del Balzo, qui a été tué par balle cet après-midi à Dollard-des-Ormeaux. On va parler de tout ça avec André Cédillo, qui a été chroniqueur judiciaire à la presse pendant 35 ans, spécialiste de la mafia italienne et du crime organisé, et aussi co-auteur du grand livre à succès Mafia Inc. Salut André!
Bonjour Patrick.
André, c'est pas une surprise l'assassinat là de Francesco Del Balzo.
Non, je pense que son temps était compté depuis un bon moment déjà là, surtout depuis l'attentat qui a été commis contre Leonardo Rizzuto là, le fils de l'ancien chef de la mafia à Montréal, Vito Rizzuto, il y a quelques semaines. On s'attendait là à ce que, parce que c'est lui qui semble-t-il qui avait commandé l'attentat contre Leonardo, donc on s'attendait à ce que sa vie soit menacée.
André, comment le nom de Del Balzo a circulé peu après la tentative d'assassinat de Leonardo Rizzuto sur l'autoroute à Laval, là, mais comment est-ce qu'on en vient dans ces familles de mafieux-là à savoir qui a commandé quelle tentative d'assassinat?
Ben, ce qui se passe dans ce dossier-là, c'est que Del Balzo, depuis sa sortie de prison en 2017, lui, il pensait de reprendre son pouvoir, parce que c'est un gars qui avait beaucoup, beaucoup de pouvoir, lui, dans la mafia. Il était très prolifique. Là. Il était impliqué dans les importations de drogue, il était impliqué dans la distribution de drogue. Il était aussi, et surtout, c'est lui qui détenait le fameux book là, qui fait l'envie de tous les mafieux, c'est-à-dire le livre comptable là, des paris sportifs. C'est lui qui avait ça avant d'entrer en prison. Puis quand il a sorti de prison, on peut penser que c'est plus lui qui l'avait. Là. Le book avait été passé à quelqu'un d'autre. Puis depuis ce temps-là, lui, il essaie de retrouver sa place, d'abord au sein du clan sicilien. Puis on peut comprendre que là, il a été rejeté par le clan sicilien parce que maintenant, il est, aux dernières nouvelles, il était maintenant rangé du côté des Hells Angels. Il s'était allié aux Hells Angels, sans doute aussi pour faire profiter, de reprendre son book et faire profiter les Hells Angels de cette manne d'argent qui découle des paris sportifs.
Ben André, c'est ça. Élabore un peu sur l'importance de ce fameux book-là des paris sportifs.
Mais c'est parce que les paris sportifs, c'est un peu à la base, comme le prêt usuraire un peu, parce que ça donne lieu à toutes sortes d'activités, parce que grâce aux paris sportifs, on fait beaucoup d'argent. Alors, je me souviens plus du montant, là, c'était, je pense qu'eux autres, là, dans le temps, en 2006, ils sortaient 26 millions nets par année avec le paris sportif, le groupe de Del Balzo et le gang de Francesco Arcadi. Et donc, d'abord, c'est très payant. Deux, les sentences sont pas très élevées quand tu te fais prendre. Et aussi, c'est que ça rouvre la porte à toutes les autres activités. Pour financer des importations de drogue, on se sert de cet argent-là. Pour financer le prêt usuraire, on se sert de cet argent-là. Et c'est aussi un puits pour aller, pour collecter du monde, là, pour attirer des gens dans ton groupe. Autrement dit, les gens qui sont endettés, bon, ben on peut s'en servir après pour toutes sortes d'opérations, que ce soit obtenir des armes, cacher de la drogue et tout ça. Donc, c'est pour ça que le book, c'est très important dans le monde du crime organisé.
André, c'est clair qu'il y a une sorte de guerre interne dans la mafia puis dans le crime organisé plus large. C'est qui les forces en présence puis qui veut quoi?
Ben dans le moment, c'est que il y a un manque depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit qu'au sein du clan sicilien, là, c'est un peu la débandade. On n'est pas capable de trouver des leaders qui vont être respectés par le reste du milieu. On peut penser que Leonardo Rizzuto, lui, il a été parachuté là par sa famille parce qu'il n'y en avait plus de Rizzuto. Le clan Rizzuto était comme anéanti. Donc on a parachuté Leonardo à la tête de ça, mais Leonardo Rizzuto, il n'y a pas le charisme. Il y a la réputation de son père, mais il n'y a pas le charisme, il n'y a pas l'expérience non plus du milieu criminel de plusieurs familles mafieuses et aussi des Hells Angels. Il n'y a pas le respect des Hells Angels. Oui, on peut faire affaire avec lui, mais il peut pas être le leader. Donc, on se cherche dans le monde interlope, on se cherche un leader là qui va être respecté, qui va avoir du charisme et qui va avoir de l'expérience.
Quand cette personne-là va être trouvée, entre guillemets, André, ils vont s'arrêter de se tirer dans la rue?
Je ne pense pas parce que la nouvelle génération de mafieux sont très affamés, sont très vite sur la gâchette. Et c'est différent des vieilles familles mafieuses. C'est plus pareil. Puis je ne pense pas qu'on va trouver non plus un dirigeant omnipuissant comme Vito, comme les Siciliens l'étaient dans le temps. C'est eux autres qui dirigeaient tout, tu sais. C'est eux autres qui réglaient les conflits. Ça. Aujourd'hui, c'est plus en partenariat. La nouvelle génération sont plus en partenariat. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre et trouver un leader? Parce que même si c'est en partenariat, il y en a toujours un qui mène. Faut qu'il y en ait un qui mène, sinon c'est le chaos.
André, t'as suivi les activités des criminels organisés comme ça là, pendant des décennies. Puis je l'ai dit, t'es le co-auteur avec André Noël du livre à succès Mafia Inc. Qu'est-ce qui se passe dans le crime organisé, dans Mafia en particulier, que t'aurais jamais pensé voir de nos jours?
Ouais, c'est que ça dure si longtemps que la mafia ne réussisse pas à se réorganiser. Que ça fait 15 ans déjà là, au minimum, ça fait 17 ans l'opération Colisée en 2006. Mm-hmm. Et puis depuis à peu près depuis ce temps-là que c'est la mafia est dans le chaos total, puis il n'y a pas de leadership, ils sont pas de se trouver de leader. C'est ça que je trouve hallucinant. Puis aussi c'est la visibilité, la nouvelle génération de mafieux, eux autres sont très visibles et je pense sont pas discrets. Les lois non écrites, on l'a vu là, dernièrement, on ne respecte plus rien. Donc ce qui faisait la force de la mafia à l'époque, c'est en train de faire sa faiblesse aujourd'hui.
André, qu'est-ce que tu entends sur Frédéric Silva, là, qui est le tueur à gages de la mafia, qui se serait mis à table, qui serait en train de livrer aussi les secrets de la mafia?
Le clan sicilien devrait normalement encore écoper parce que c'est eux autres qui commandaient qui commandaient des meurtres là. Donc les diverses familles, il va y avoir d'autres familles de la mafia là, qui vont tomber avec lui. C'est clair et net, ça, qu'il va avoir ça sera pas juste une famille, il va y avoir quelques familles, là, qui vont se retrouver dans le trouble, là.
Ça va encore déstabiliser l'écosystème du crime organisé, là.
Dépendant des familles qui sont touchées, oui.
Fait que ça risque de créer encore plus de fusillades dans les rues.
Pas nécessairement. Là, à un moment donné, ils vont finir par comprendre que la business passe en premier. Là, ils vont finir par s'entendre sur un modus operandi. Là, je présume. Ça fait tellement longtemps que ça dure. Mais la nouvelle génération est imprévisible. Fait que c'est difficile à se prononcer.
Merci André, toujours un plaisir.
Au plaisir.
À la prochaine. C'était André Cédillo, chroniqueur judiciaire à la presse pendant 35 ans et co-auteur du livre avec André Noël, Mafia Inc.
Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
On va parler de santé maintenant parce que, oui, il y a les incendies de forêt. Qu'est-ce que ça cause, les incendies de forêt? Ben, ça émet dans l'air ce qu'on appelle des particules fines. Ça descend un peu partout dans les villes du Sud. Donc, le changement de couleur que vous voyez dans le ciel, dans l'atmosphère aujourd'hui, c'est dû à ça. Et c'est invisible, mais ça peut causer des problèmes pulmonaires. On va parler de tout ça avec Dr. Jean-Pierre Trépanier, directeur de la santé publique à Laval, et aussi David Kaiser. Il est directeur médical adjoint à la direction régionale de santé publique de Montréal. Messieurs, bonjour.
Bonjour, M. Legacy.
M. Kaiser, bonjour.
Bonjour.
Oui, je commence avec vous, Dr. Trépanier. D'abord, quels sont les avis que vous avez lancés à la santé publique de Laval pour que les gens se protègent?
Je comprends que la situation qu'on vit actuellement est exceptionnelle. Là, on a un nuage de fumée important qui nous descend de l'Abitibi. Alors, c'est une situation de smog qui est inhabituelle. Donc, le ministère de la Santé nous a alertés et nous, on a décidé de relayer des messages là auprès de la population, particulièrement auprès des personnes vulnérables. Mais compte tenu de la situation qu'on vit actuellement, je pense que tout le monde doit se sentir concerné, là. Donc, les messages, de façon générale, consistaient à réduire le plus possible les activités qu'on passe à l'extérieur. Évidemment, l'accent était mis sur les personnes les plus âgées, les personnes plus jeunes, les femmes enceintes, qui sont des personnes qui sont considérées davantage vulnérables. Évidemment, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, respiratoires, cardiovasculaires également. Mais les personnes asthmatiques, hein, qui se considèrent pas nécessairement comme des malades chroniques, mais qui sont vulnérables dans des situations comme celles qu'on vit actuellement aussi.
Mais si je comprends bien, vous avez envoyé des directives aussi aux CPE et aux écoles du territoire de Laval.
Bon, maintenant, ce qu'on a fait, après avoir relayé des messages là, pour la population générale, on a été invité à entrer en contact avec nos partenaires dans différents réseaux. Donc, la petite enfance, les CPE, les milieux scolaires, donc écoles, centres de services scolaires, la commission scolaire anglophone également. On a émis des recommandations à l'effet qu'on devait, dans la mesure du possible, là, restreindre des activités à l'extérieur et donc, si possible, faire des activités à l'intérieur. Donc, c'est les directives là, qu'on a émises hier. Dans la perspective où les valeurs qu'on avait de particules fines, telles qu'elles étaient prévues par Environnement Canada, étaient de l'ordre de très importantes, donc une qualité de l'air de mauvaise qualité, qui faisait en sorte que c'était préférable là, de garder les enfants à l'intérieur aujourd'hui.
OK, je me tourne maintenant vers un de vos collègues, la santé régionale de Montréal, de la santé publique de Montréal, Dr. David Kayser. Dr. Kayser, est-ce que la santé publique de Montréal a émis les mêmes directives pour les CPE et les écoles qu'on a pu constater à Laval?
Enfin, on va dire la base est la même, la base de dire qu'on est dans un contexte de mauvaise qualité de l'air. Juste le mettre en contexte, à Montréal, on a une quarantaine de journées de mauvaise qualité de l'air, bon an, mal an, puis peut-être un tiers qui sont l'été. Alors, en général, on est habitué à gérer des journées de mauvaise qualité de l'air, puis là, on a une situation particulière qui est causée par les feux de forêt. Le message qu'on a lancé est sensiblement le même à la base. Après ça, il y a une nuance, et puis vous l'identifiez, c'est qu'on n'a pas donné la consigne à Montréal de garder les enfants à l'intérieur pour, par exemple, la récré, les pauses, et puis c'est vraiment basé sur les valeurs qu'on a. Les valeurs qu'on a à Montréal, je vais vous donner des chiffres, là, et pour les gens, ça veut dire grand-chose, mais 30 à 40 microgrammes par mètre cube. Le chiffre n'est pas important. Pour nous, c'est pas important. Ça nous met dans une zone où, comme Dr. Trépanier l'a dit, les personnes plus vulnérables doivent prendre des mesures, c'est sûr. Puis après ça, pour la population générale, on s'attend pas à ce qu'il y ait des effets importants sur la santé. Est-ce que les gens doivent se sentir concernés? Oui. Est-ce qu'on veut garder les enfants à l'intérieur dans un contexte montréalais avec ce qu'on connaît sur nos écoles, les îlots de chaleur, la ventilation? Mmh. On a jugé que dans le contexte actuel, c'était pas nécessaire pour le moment.
Docteur Kayser, êtes-vous dans une station de métro?
Non, mais on le dirait. Hein.
OK.
Il y a eu un petit bruit imprévu.
Parfait. Écoutez, je vous pose la question. L'autre bord de la rivière des de la rivière des Prairies, à Laval, la santé publique a envoyé une directive. Santé publique a dit aux CPE, a dit aux écoles, gardez les enfants en dedans autant que possible. Pourquoi on n'a pas fait ça à Montréal?
En fait, c'est vraiment notre analyse du risque à Montréal en connaissant notre contexte spécifique, le contexte urbain, ce qu'on connaît sur les écoles, notre connaissance historiquement de comment on est capable de gérer et puis avec une vision globale pour les enfants, ce qu'on souhaite, oui. C'est qu'on limite l'exposition pour les enfants les plus vulnérables. Ça fait partie du message qu'on a donné aux écoles. C'est très clair. Un enfant asthmatique, c'est tout à fait raisonnable qu'une journée comme celle-ci, cet enfant-là puisse rester à l'intérieur, puisse avoir des mesures spécifiques.
Moi j'ai été contacté, Dr. Kayser, j'ai été contacté par une mère qui a posé la question au CPE, à savoir, écoutez, allez-vous laisser sortir les enfants aujourd'hui? Le CPE ne savait pas trop quoi faire. Est-ce que vous pensez que la santé publique de Montréal a bien communiqué là-dessus, les consignes?
En fait, on a été en lien avec nos partenaires hier, aujourd'hui, je peux vous le confirmer. Là, mes collègues ont été directement en lien avec nos partenaires du milieu scolaire. C'est sûr que dans le contexte...
Mais les CPE?
Oui.
Les CPE
également. Pas aujourd'hui, les rencontres aujourd'hui avec le milieu scolaire. Je veux dire quand même que je pense que vous soulevez quelque chose d'important. D'abord, on a une situation aujourd'hui à Montréal qui ne se compare pas à ce qui se passe en Abitibi, puis nos pensées sont avec eux, hein, c'est important, et puis ça fait que au niveau provincial, on a des messages qui sont émis par le ministère, sont importants et qui visent à avoir une base.
Après Dr. Kayser, je vous arrête, allez. Je comprends rien à ce que vous me dites.
Parfait. Allez-y, je suis prêt.
Écoutez, Laval, c'est pas à 75 km de Montréal, puis à Laval, ils ont envoyé des consignes claires au CPE et des consignes claires aux écoles. Là, vous me parlez de parler aux partenaires, vous me parlez d'analyse de risque. Christy, il y a juste la rivière des Prairies entre Laval puis Montréal.
Oui, il y a des différences quand même dans les concentrations qu'il y a eu dans les 24 dernières heures. Alors ça, c'est sûr qu'on suit directement ce qui se passe. Et par la suite, tout ce que je peux vous dire, c'est oui, je crois qu'on a clairement envoyé des consignes sur notre analyse du risque qu'on jugeait pertinent pour la population montréalaise. Je peux pas parler pour Laval, c'est certain. Je peux parler pour notre population à nous.
OK. Votre position sur les gens qui ont des problèmes d'asthme, les gens qui ont des problèmes respiratoires, les personnes qui ont une maladie chronique, est-ce que ces personnes-là devraient rester en dedans d'abord et avant tout?
Le message général, c'est d'éviter d'aller à l'extérieur si on le peut. C'est sûr que si on a, il y a des gens qui ont plein de choses. Ils travaillent, ils vont voir leur médecin, peu importe. Et puis c'est sûr qu'il y a des choses que les gens peuvent faire pour se protéger. Puis là, il y a un message important, c'est de dire les masques chirurgicaux, les masques de procédure, ça ne change rien pour les particules fines.
Puis le N95.
Exactement. Alors, les gens qui ont des maladies respiratoires, qui doivent sortir dehors, c'est sûr que la N95, ça va faire une différence de 10 fois. Hein? Alors, c'est très efficace si c'est bien mis pour les particules fines. Alors, la N95, très efficace, puis c'est une mesure tout à fait pertinente pour les gens à risque.
OK. Parfait. Merci, Dr. Kayser. Je reviens à Dr. Jean-Pierre Trépanier, qui est directeur de la santé publique à Laval. Dr. Trépanier, qu'est-ce que fait que chez vous, vous avez décidé dans votre analyse d'avertir les CPE et les écoles à Laval que c'était mieux de garder les enfants à l'intérieur?
Mm-hmm. Ben, ça peut paraître étonnant des fois là, qu'il y ait des situations différentes à Montréal et Laval. Je peux pas parler pour celle de Montréal, mais à Laval, nous, on a constaté que les prévisions qui avaient été émises par Environnement Canada nous mettaient dans une zone où il y avait des risques pour des populations plus vulnérables, puis on a considéré les enfants comme une population plus vulnérable. Alors, c'est la raison qui nous a fait émettre cet avis-là hier à titre préventif, parce que évidemment, il peut y avoir ensuite des variations là, dans les taux de particules fines qu'on mesure dans l'air. D'ailleurs, si c'est pour rassurer les gens, là, ce qui était prévu hier, ça s'est pas avéré être aussi élevé que ce qui était prévu. Alors, tant mieux. Mais nous, de manière préventive, il fallait qu'on émette une consigne claire. Donc, on l'a fait. Et maintenant, on a des prévisions pour les jours à venir là, qui sont bien meilleures. Donc, on va être en mesure de lever cette recommandation-là à partir de ce soir, et ça devrait même déjà être en ligne sur notre site web.
OK. Et j'ai beaucoup de questions, Dr. Trépanier, sur les climatiseurs, sur les échangeurs d'air. Est-ce que vous avez envoyé des directives, des consignes là-dessus?
Oui. Bien, en fait, ce qui est important, là, c'est de ne pas faire entrer des particules dans des endroits clos. Donc, dans les écoles, on ne souhaitait pas qu'il y ait des particules fines, dans les CPE non plus d'ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle la recommandation faisait en sorte là, qu'on suggérait de fermer les fenêtres et de faire recirculer l'air à l'intérieur. Évidemment, là, on le sait, ça fait en sorte de monter un peu les taux de CO2, mais d'une manière préventive, ce qu'il fallait privilégier, c'est vraiment ne pas faire entrer les particules fines dans les écoles et les CPE.
Merci d'avoir été avec nous. C'est très clair ce que vous nous avez expliqué. Merci, Dr. Trépanier.
Merci.
C'était Jean-Pierre Trépanier, directeur de la santé publique à Laval, et aussi parallèlement Dr. David Kayser, directeur médical adjoint à la direction régionale de santé publique de Montréal. Juste 30 secondes, on va revenir sur ces deux entrevues. J'ai interrompu tantôt Dr. Kayser, puis je trouvais que c'était pas clair. Je m'excuse, c'était pas clair. Et au-delà de ça, au-delà des mots choisis, vous avez deux santé publiques qui sont voisines, Laval, Montréal. Je l'ai dit, c'est pas à 75 km de distance. Il y a un plan d'eau, la rivière des Prairies, qui sépare ces deux territoires-là. Et on a des directives complètement contraires. Ce à quoi ça me fait penser, c'est le capharnaüm de directives qu'on pouvait avoir de nos santé publique au pluriel pendant la pandémie. Le fédéral conseillait une patente, le provincial en conseillait une autre, puis après ça, tu avais des directions générales régionales de la santé publique qui avaient d'autres positions. S'il vous plaît, au nom de la clarté, puis je comprends là que c'est pas une urgence qui va durer tout l'été, au nom de la clarté, accordez donc vos flûtes, accordez vos messages. C'est un peu absurde qu'à Laval, on puisse contacter les CPE, les écoles primaires, les écoles secondaires pour donner des directives et qu'à Montréal, on n'ait pas les mêmes directives. Encore une fois, il n'y a pas une grande distance, la dernière fois que j'ai checké, entre Laval et Montréal.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
On fait le point sur les incendies de forêt qui font rage un peu partout au Québec avec la ministre des Ressources naturelles et des forêts du Québec, Maïté Blanchette-Vézina. Madame la ministre, bonjour.
Bonjour.
D'abord, combien de feux de forêt sont toujours en activité?
À dernière heure, le feu actif, on est autour de 150. Faut comprendre que le chiffre fluctue parce qu'il y a certains feux parfois qui fusionnent. Là. Donc des fois, on a l'impression qu'il y a moins de feux, là, mais la donnée qui est importante en ce moment, c'est le nombre d'hectares de forêt atteints. On est à 375 000 là, dans les derniers chiffres qu'on m'a transmis, ce qui est un des plus hauts chiffres dans l'histoire là, de la sub-feu.
OK. Et dans quelle région est-ce qu'on a le plus d'inquiétudes?
En ce moment, Abitibi, Témiscamingue, la Côte-Nord, puis Mauricie, les choses semblent aller mieux là, dans les dernières heures, les pronostics étaient meilleurs, mais l'Abitibi, vraiment, on va concentrer nos effectifs. Comme cette île, la pluie nous aide. La pluie aide du côté est là, du territoire, c'est une bonne nouvelle. On a d'ailleurs annoncé là aujourd'hui la réintégration des gens de cette île puis de Manutenam. Donc c'est des bonnes nouvelles, mais on va rapatrier rapidement les effectifs pour s'assurer d'avoir une force de frappe encore plus grande en Abitibi.
Donc les gens qui sont libérés par les pluies là dans la région de Côte-Nord, ben ils vont pouvoir être transférés effectifs et avions, j'imagine. Ça s'en va tout en Abitibi.
Ben, je vous dirais pas tout parce qu'il faut continuer d'agir. Quand même, les feux, il y en a encore dans l'Est, mais ça nous permet de nous donner quelques jours là, de répit pour amener plus de gens en Abitibi, puisque dans ce secteur-là, on n'annonce pas de précipitations. Puis ça, c'est moins des bonnes nouvelles là, pour les gens d'Abitibi.
OK. Parlez-moi, là, je sais qu'il y a un effort pour sauver des installations d'Hydro-Québec, des installations importantes là, un peu au nord de Baie-Comeau.
Oui. Manic 3, donc on avait des feux qui se dirigeaient là, vers le poste Ouzoutard, le poste Miquois. Il y a des opérations, des avions cernes qui ont porté fruit. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Il y avait des gicleurs aussi qui ont été installés pour protéger le barrage en tant que tel. Les chalets ont été évacués. Il y a eu la route 389 qui a été fermée, mais elle a été réouverte là, jusqu'à Fermont là, dans les dernières données qu'on a à jour, ce qui est une bonne nouvelle. Mais on continue quand même certaines actions là, pour s'assurer de contenir les feux en ce moment, tout en envoyant des forces de frappe supplémentaires en Abitibi.
Donc, je reste sur Baie-Comeau là, puis les installations de Manic 3. Donc, ça, c'est fait, c'est sauvé.
À ce moment-ci. Il reste qu'il y a des feux encore. On les regarde, par exemple, on s'assure de voir leur évolution, de les contenir. Donc ça peut vouloir dire de continuer d'avoir certains pompiers sur le terrain, de la reconnaissance aussi des airs. Mais pour l'instant, ces feux ne sont moins priorisés. Donc parce que la situation est contenue pour le moment.
OK. Maïté Blanchette-Vézina, vous êtes ministre des Forêts. Pourquoi il y a tant de feux de forêt ces jours-ci?
Jeudi dernier, on a eu un épisode d'orage là, presque pan-québécois là, où plusieurs éclairs ont déclenché des feux. On parle d'autour de 100 feux simultanés sur le territoire du Québec. Donc, les éclairs, l'orage, les orages qui ont eu lieu jeudi dernier là, nous ont amené à avoir cette situation là, où tout en même temps est arrivé et où nos partenaires canadiens sont dans la même situation que nous, ce qui a amené à devoir demander de l'aide. Là, on le fait rapidement pour s'assurer d'être en mesure de sécuriser les gens, sécuriser les communautés, sécuriser nos infrastructures. Donc là, la situation s'améliore, mais on est toujours très actifs. Puis l'arrivée de l'aide internationale, l'arrivée de l'armée également là, nous aide énormément.
On dit souvent que les feux de forêt, c'est principalement dû à l'activité humaine. Ce que vous me dites, c'est que dans ce cas-là, c'est pas le cas.
Effectivement, dans les données, habituellement, statistiquement, c'est l'activité humaine. Cette fois-ci, les feux principalement proviennent des orages, mais on a demandé et on a fermé certains territoires là, parce qu'on savait que l'activité humaine peut en déclencher là, par accident. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis ces restrictions en place pour s'assurer de ne pas avoir de nouveaux feux ou de restreindre au maximum le déclenchement de nouveaux feux qui pourraient être causés par l'activité humaine. C'est pour ça qu'on a mis en place des mesures, des restrictions importantes dans plusieurs régions du Québec.
Ces restrictions-là pour les travaux forestiers, vous les avez mises en place la semaine passée avant les orages de jeudi?
Oui, habituellement avec l'industrie forestière, là, lorsqu'il y a un niveau élevé de risque d'incendie, il arrive là, que déjà on intervienne pour retirer là, de l'activité forestière des forêts. C'est ce qu'on a fait en début de semaine, là, en voyant l'indice de feu élevé pour éviter justement dans les causes humaines, là, ça c'en est une des causes humaines là, de déclenchement de feu. Donc en sachant ça, on a aussi interdit les feux à ciel ouvert par mesure préventive. Et là, est arrivé là, ce qui s'est passé jeudi dernier où l'orage qui aura déclenché une centaine de feux en même temps.
OK. Votre patron, le premier ministre, M. Legault, a dit que le Québec devait en faire plus pour protéger les forêts dans un contexte où on voit des effets du réchauffement du climat. Qu'est-ce qu'on doit faire, disons, de façon pressante, d'après vous, Mme Vézina, pour protéger les forêts si une telle chose est possible?
En fait, on travaille déjà au ministère des Ressources naturelles des forêts là, sur une stratégie d'adaptation de gestion et d'aménagement forestier en lien avec les changements climatiques, avec le forestier en chef, pour notamment aussi faire de la sylviculture d'adaptation, donc améliorer nos pratiques. On est là-dessus en ce moment. C'est clair qu'on peut pas nier l'évidence et pour nous, il est important de s'adapter. Là, on va faire les bilans. En ce moment, la priorité, c'est de sauver des communautés, sauver les gens, sauver nos infrastructures, mais lorsqu'on pourra le faire, on fera le bilan nécessaire puis on ajustera cette stratégie-là en lien avec ce qu'on a vécu cette année, qui encore une fois, je le dis, exceptionnel là, par rapport aux années passées, mais qui pourrait réarriver. Donc, on va s'assurer de mettre des mesures en place pour éviter ce genre de situation-là autant que possible.
Est-ce que la SOPFEU, selon vous, a suffisamment d'effectifs et d'avions citernes, justement pour l'époque dans laquelle on vit, là, qui est en pleine transformation?
En fait, la SOPFEU, elle a une flotte d'avions citernes la plus grosse au Canada. Là. Donc, on a une flotte d'avions citernes qui est active et qui est reconnue. Là. D'ailleurs, on va aider la plupart du temps les provinces canadiennes. Donc, l'intervention, la force de frappe, elle est bonne. Encore une fois, cette situation cette année, elle s'écarte de façon majeure de la moyenne des statistiques qu'on fait pour faire les budgets, pour l'embauche des effectifs, pour le fait aussi que depuis toute l'histoire de la SOPFEU, normalement, il y a au moins une, deux, trois provinces qui peuvent venir aider, puis on s'alterne comme ça entre provinces dans l'aide mutuelle, ce qu'on peut pas faire cette année. Encore une fois, on va faire des bilans, on verra les adaptations qu'on va prendre, les mesures qu'on va prendre pour s'adapter en fonction de ce qu'on aura vécu cet été.
On me dit qu'il va falloir vraiment songer à changer une partie de la flotte des avions citernes de la SOPFEU, parce qu'il y en a qui seraient aussi vieux que 50 ans et plus. Est-ce que c'est vrai?
En fait, oui, et on est en action là, sur cet aspect-là. On a un programme de modernisation de nos équipements, là, 40 millions. Il y a 8 des 14 avions citernes là, qu'on a en ce moment qui font partie du projet de modernisation. Puis on est en discussion aussi avec la SOPFEU pour voir qu'est-ce qu'on fait là, pour la suite, pour notre flotte. Il y a de nombreux pays qui ont envoyé des commandes. Les délais sont longs, mais on veut En ce moment, ce qu'on peut comprendre, ce que vous devriez ou ce que je peux vous expliquer par rapport à ça, c'est qu'on a mis en place quand même, on a nolisé des hélicoptères, les minières, les entreprises forestières ont tous aidé à ce qu'on ait encore plus d'équipements pour agir. L'armée également nous soutient en ce moment. Donc, on a une force de frappe nécessaire, puis on fera les ajustements requis au besoin, encore une fois, lorsque la situation sera rétablie.
Ben, ce que vous appelez une force de frappe, c'est, je pense qu'on a une quinzaine d'avions citernes, puis ce que vous me dites, Madame la ministre, c'est parfait pour l'ancien paradigme. Pour les années à venir, dans un contexte où on peut pas se commander des avions citernes dans un an, dans deux ans, ça se peut qu'on soit short en bon québécois.
Écoutez, effectivement, que vous avez raison. Là, si les feux reviennent à chaque année comme celle-là, on a une analyse à faire, un bilan à faire. Est-ce que d'autres actions sont prises? On va regarder ça avec la SOPFEU à la fin de la saison. En ce moment, je tiens à vous rassurer, là, on a suffisamment d'équipements d'avions citernes. On peut en prendre plus, c'est certain. Ça va nous permettre d'agir encore plus sur des feux qu'on ne peut pas prioriser en ce moment. Mais avec les hélicoptères, avec les 14 avions citernes, avec ceux qui sont envoyés aussi de la Nouvelle-Écosse, parce qu'on en a 4 là, de la Nouvelle-Écosse qui arrivent, Nouveau-Brunswick aussi qui est en aide, on arrive à avoir une force de frappe suffisante pour contenir nos feux.
Au final, Madame la ministre, qui décide de quel feu on va prioriser?
La SOPFEU, elle analyse, c'est premièrement, priorité 1, sauver des vies. Donc, s'il y a des gens en forêt qui se mettent dans des situations où on doit les secourir parce qu'ils sont encerclés par le feu, ça, c'est arrivé là, dans les derniers jours, c'est sûr que tout le monde arrête dans le secteur puis ils vont à la rescousse, donc on mobilise un hélicoptère. Fait que ça, c'est la première chose, première priorité. Ensuite, c'est la sécurité des communautés. Donc, on va contenir puis on va prioriser les feux qui menacent certaines communautés. Donc, c'est là les actions qu'on prend, les priorités 1. On va aussi regarder nos infrastructures, donc Hydro-Québec, des infrastructures aussi de téléphonie. Donc, on est en action pour s'assurer aussi dans la priorisation. Là, ça peut regarder ces éléments-là. Puis par la suite, on regarde à réduire les impacts sur la forêt, mais c'est en dernier lieu.
Je vous laisse aller travailler. Je sais que vous êtes très occupée. Merci d'avoir été avec nous, Madame la ministre.
Ça m'a fait plaisir. Merci.
C'était Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec.
Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Maintenant. Le Québec a jamais été, disons, frappé par autant de feux de forêt. Il y a des faits scientifiques qui se rattachent à ça. C'est pas de la fiction. On va parler de tout ça avec le chercheur en écologie forestière chez Ressources naturelles Canada, Yann Boulanger. Monsieur Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Boulanger, je suis tombé sur votre compte Twitter où vous avez expliqué les faits à propos des feux de forêt. D'abord, peut-être nous donner le contexte, ce qui vous a motivé à embarquer sur Twitter pour, disons, faire un petit peu de pédagogie.
Ouais, ben disons, je suis toujours un adepte de la vulgarisation scientifique, je dirais. Puis, dans certaines radios, justement, on prétendait, ou dans certains milieux aussi, on prétend que, dans le fond, les changements climatiques ont pas rapport avec l'augmentation des feux, que, dans le fond, il y a plein de théories complotistes aussi qui circulent présentement. Puis, c'est toujours une bonne affaire, je pense, que de remettre les pendules à l'heure dans une certaine mesure, puis de, justement, présenter les faits et présenter, entre autres, les résultats de nos recherches.
Bon, parfait. Parlons-en des résultats de recherche. Là, première question, comment ça se fait que cette année, ce sont les pires feux de forêt au Québec depuis la création de la SOPFEU, par exemple, si on prend ce marqueur-là, depuis 50 ans?
Ouais, ben en fait, effectivement, comme votre intervenante le mentionnait juste avant, on est présentement comme à 515 000 hectares. La plus grosse année avant dans la zone de protection intensive, on était, c'était en 2005, à 386 000, je crois. Donc, on est déjà vraiment en haut, puis on est juste rendu au mois de juin. Donc, pour l'instant, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au mois de mai, on a eu des températures qui sont vraiment très chaudes, surtout dans la dernière semaine du mois de mai. Ça a été précédé, ça, par un mois de mai où le déficit de précipitations était très important. Dans certaines régions, on était en haut de 50%, ben en fait, moins de 50% de précipitations, des précipitations normales du mois de mai. Ça a été suivi par le passage de plusieurs orages qui ont laissé la foudre faire leurs dégâts. Donc, la foudre a allumé les dizaines et plus de 100 incendies, dans le fond, ce qui a fait en sorte que, justement, présentement, là, il y a plusieurs feux qui sont en activité et qui sont hors de contrôle.
Est-ce qu'on peut faire un lien avec les changements climatiques, avec le réchauffement climatique, et je parle d'un lien direct?
Ouais. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que en raison des changements climatiques, ce genre d'événement exceptionnel-là qu'on est en train de vivre a une plus grande probabilité de se produire. On peut pas associer un événement direct comme ça à dire « OK, c'est les changements climatiques ». Ce qu'on peut dire, c'est qu'un événement comme ça donc a plus de chances de se produire. Et c'est effectivement ce qu'on se rencontre depuis les 50 dernières années, même les 70 dernières années, je vous dirais. On a une augmentation des conditions météo qui favorisent justement une augmentation de la sévérité des conditions météo qui sont propices au développement des incendies. Je parle par exemple de l'allongement de la saison de feu. Donc, la saison commence beaucoup plus tôt au printemps, se termine plus tard à l'automne. On a une augmentation des températures qui est très importante. Évidemment, plus il fait chaud, plus c'est sec, plus c'est propice au développement des incendies. Les indices de danger de feu sont beaucoup plus sévères et le nombre de jours où on observe ces indices de danger sévères-là sont de plus en plus importants. Donc, si c'était là, on avait vraiment la tempête parfaite là pour avoir les conditions qu'on connaît présentement, mais on voit que ces conditions-là risquent de se répéter. En fait, elles se répètent de plus en plus souvent et devraient se répéter encore plus souvent dans le futur.
Je reviens à votre fil Twitter, Yann Boulanger. Là, ce que vous dites, c'est que sur 30 ans, là, le changement de température c'était un peu graduel. Là, on parle pas de plein de degrés, mais des petits points de pourcentage sur 30 ans, ça allonge la saison des feux, puis ça peut l'allonger de combien de temps?
Ah, ça peut l'allonger pas mal. Là, on parle quasiment de saison de feu qui débute pratiquement deux semaines plus tôt qu'avant. C'est pas rien. Puis on prévoit justement que dans le futur, notamment en raison de l'augmentation des températures, donc ça va faire en sorte que plus tôt au printemps, on va avoir déjà des conditions qui vont être... la neige va fondre plus vite, par exemple, ou il va faire chaud plus rapidement. Et on voit que le début de saison, par exemple, pourrait être devancé d'un autre 20 jours ou même de 30 jours dans certains cas. Donc ça laisse une fenêtre, dans le fond, qui est plus importante, pour que les feux puissent se produire durant l'année. Et donc, il y a plus de superficies brûlées.
Quand des superficies immenses comme ça brûlent, ça doit aussi contribuer, disons, à l'augmentation des températures dans un lieu donné, non?
Ben, disons que ça participe à une espèce de boucle, une boucle de rétroaction positive. Lorsque les feux surviennent, il y a évidemment beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis durant le feu lui-même. Il y en a aussi qui sont émis tout de suite, ben, en fait, dans les années subséquentes parce que le bois qui a brûlé va se décomposer. On observe justement, notamment dans les forêts canadiennes, que cette augmentation des perturbations naturelles, notamment l'augmentation des feux, font en sorte que le Canada, plutôt que d'être un puits pour le carbone, devient une source de carbone. Et si on se projette encore une fois dans le futur, en raison de l'augmentation des aires annuelles brûlées, la probabilité que le Canada demeure un puits de carbone vont excessivement diminuer dans le futur, donc pour devenir une source. Et si on devient une source, évidemment, bien, on participe justement à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui participe au réchauffement. Donc.
Comme chercheur, Yann Boulanger, qu'est-ce qui vous frappe dans les incendies, non seulement au Québec, mais partout au Canada cette année?
Oui, cette année-là, c'est vraiment... Je suis comme flabbergasted. Comment on dit ça déjà? En tout cas, je suis pas mal...
On est stupéfait, là. Oui, sous le choc.
Stupéfait. Bon, c'est bon, ça. Parce que, justement, les feux, premièrement, sont survenus relativement tôt et surtout en très, très grand nombre et ont brûlé de très grandes superficies très rapidement. Donc, si on parle à l'échelle canadienne, on a des feux qui sont... Habituellement, durant une saison de feu, les feux vont se cantonner à une région du Canada, par exemple, surtout dans l'Ouest. Si ça brûle dans l'Ouest, normalement, ça brûle pas vraiment dans l'Est et inversement. Sauf que là, cette année, c'est d'un océan à l'autre. On a eu des feux de la Colombie-Britannique jusqu'à la Nouvelle-Écosse. de façon simultanée et de façon très importante. On est déjà rendu à au-dessus de 4 millions d'hectares brûlés dans une année, normalement, en moyenne au Canada. Évidemment, ça varie d'une année à l'autre, mais c'est 2,5 millions d'hectares. Donc, on a déjà dépassé ça et pas mal. Puis on est seulement au début du mois de juin.
Il y a aussi le paramètre, Yann Boulanger, des évacuations, du nombre de personnes évacuées. Ça aussi, ouais, vous surveillez ça. Parlez-nous de ce paramètre-là.
Ouais, ben on observe. C'est pas toujours évident de monter des bases de données, je vous dirais, sur les personnes et les événements d'évacuation. On a des chercheurs justement ici au Service canadien des forêts qui s'en occupent et on s'aperçoit, en fait, ces chercheurs-là s'aperçoivent que justement depuis les années 80, on a une augmentation du nombre d'évacuations, des personnes aussi qui sont évacuées. Cette année, on est déjà, si je m'abuse, à une année record en termes de nombre de personnes évacuées. Donc c'est évidemment, donc on le voit que les feux, lorsqu'ils augmentent, lorsqu'ils sont présents, du moins, ont un impact économique et social là, très important.
Ça fait combien de temps que vous étudiez la forêt?
Eh bien, moi, j'ai commencé mon doc en 2005, puis je suis chercheur depuis 2013. Donc, je suis quand même un jeune chercheur, je dirais. Là. Mais d'avoir des feux autant que ça dans ma jeune carrière, ça n'a pas arrivé.
OK. Vous étudiez, c'est votre job d'étudier la forêt, les feux de forêt.
Exact.
Quand quelqu'un comme Maxime Bernier arrive puis propage des théories complètement loufoques sur la cause de ces incendies de forêt, qu'est-ce que ça fait ressortir comme émotion chez vous?
Jusqu'à une certaine limite, je peux dire que c'est un petit peu divertissant, mais en réalité, c'est toujours bien intéressant de revenir à des faits. C'est sûr que c'est assez démoralisant, là, on s'entend. Mm-hmm. Ça reste excessivement marginal comme opinion, d'après moi. Mais moi, en tant que chercheur, c'est mon devoir de ramener les faits, justement, et de présenter ces faits-là, justement, au plus grand nombre de personnes pour, justement, avoir un narratif qui est... un narratif, je veux dire, c'est ça qui se passe. Donc, c'est aussi bien de le présenter, là. C'est un peu ce que j'entends faire aussi présentement et dans le futur. Là.
Écoutez, je dois vous dire que vous le faites très, très bien. Vous avez un côté pédagogue très coloré, puis je pense que ça aide à faire passer les messages.
Ah, ben tant mieux, coudon. Merci.
Merci d'avoir été avec nous.
Ben, merci à vous, là.
Salut, c'était Yann Boulanger, chercheur en écologie forestière chez Ressources naturelles Canada. Je suis tombé sur son fil Twitter, YBoulanger2, si vous êtes familier avec Twitter. Juste tapez son nom, Yann Boulanger, là, vous allez tomber dessus assez rapidement. Il a décidé de prendre la plume sur Twitter pour rétablir les faits, parce que vous le savez, quand il y a des phénomènes semblables, il y a tout plein de désinformateurs et d'agitateurs qui essaient de se rendre intéressants. Et les faits, disons, avancés par M. Boulanger sont assez imparables.
Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
Hier, on a parlé de l'horaire des pilotes d'avions citerne de la Sopfeu. Il y a des horaires de repos là qui s'en viennent pour plusieurs pilotes. Et c'est une forme de pilotage, semble-t-il, qui est extrêmement difficile. On va parler immédiatement avec quelqu'un qui s'y connaît. Il a été pilote d'avion citerne pour la Sopfeu en 2020 et 2021. Jacques Rousseau est pilote de ligne actuellement. Il est au bout du fil. Monsieur Rousseau, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
En quoi c'est difficile de piloter des Canadair?
Ben, l'avion en tant que tel est pas difficile. À vrai dire, elle est très amicale à piloter. C'est le travail qu'on fait avec dans des périodes comme présentement où ce que il y a des feux qui ravagent un peu partout. Donc, les pilotes peuvent faire jusqu'à 8 heures de vol à bras sur des opérations de feu par jour. C'est limité par la loi à 8 heures par jour. On peut faire des déplacements d'avion à travers ça, mais 8 heures de vol, ça peut impliquer au-dessus d'une soixantaine de largages, donc des écopages et des largages. Donc, en tout cas, j'ai des collègues là, qui ont entre 60 et 70 largages et écopages. Si le lac n'est pas trop loin de la source de feu, c'est quelque chose qui est pas mal réalisable dans une journée. Puis ça peut venir épuisant là, à la longue. À la fin de la journée, souvent, on se couche tôt. Là.
Est-ce que c'est plus difficile physiquement, mentalement à piloter que, par exemple, des Airbus ou des Boeing?
Ben, je peux vous en parler. Je vole un Boeing présentement. Je vole un Boeing présentement. Puis oui, non, c'est le jour et la nuit. C'est sûr. Il n'y a pas de pilote automatique là, sur un CL-415 ou un 215. Même en vol normal, quand on se déplace du point A au point B pour faire un positionnement d'appareil, c'est tout à bras. Il n'y a pas de système de visée GPS ou infrarouge ou laser, là, comme du monde pourrait penser. Là, les largages, c'est tout à l'œil, c'est au ressenti, c'est à bras, c'est à essai erreur. Donc, on apprend sur le tas, à un moment donné, on vient bon. Là.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle des vols de brousse?
Oui, c'est pas mal ce qui pourrait être la version la plus sentie du vol de brousse actuellement. Là, regardez, c'est d'ailleurs un prérequis pour être embauché par le service aérien gouvernemental et puis tous les autres opérateurs au Canada qui opèrent ce type d'appareil-là. Regardez, moi, j'ai sorti du cégep de Chicoutimi en 98, option brousse. Donc, j'ai fait mes premières années dans l'aviation. Ça fait 25 ans cette année. Mes premières années, je les ai faites sur hydravion, voler un peu partout dans le nord du Canada. Donc, c'est ça, d'ailleurs, qui m'a permis de pouvoir appliquer au service aérien, même une vingtaine d'années plus tard, si on veut. Donc, c'est un prérequis. Là, les gens qui ont fait, qui ont expérimenté le vol en basse altitude, le vol en région inhospitalière, le vol sur hydravion, là, c'est sûr que c'est une plus-value dans un CV quand ils veulent engager, quand ils veulent trouver un candidat pour voler ces avions-là.
On me dit, M. Rousseau, que appareil pour appareil, c'est un des... Les Canadair, là, ce sont les appareils qui ont généralement plus d'accidents que d'autres types d'avions. Parce que, justement, les pilotes sont plus susceptibles d'être fatigués, parce que les manœuvres sont difficiles. Le bout le plus critique d'un vol de Canadair, c'est quoi?
Ben, premièrement, en tout cas, si on regarde, en tout cas, juste au niveau du service aérien, si on regarde l'historique d'accidents dans les 20 dernières années, pour le type de vol que cet appareil-là, je trouve que le record de sécurité est quand même assez surprenant. Là. C'est pas aussi fréquent qu'on pourrait penser des accidents avec ce type d'appareil-là. Il y en a eu quelques-uns en Europe là, dans les deux, trois dernières années, effectivement. Mais oui, c'est sûr que si, mettons, tu t'en vas faire une attaque initiale ou une attaque sur un gros feu qui est peut-être à flanc de montagne, que la densité de la fumée est plus élevée, c'est sûr qu'on est en proximité avec le terrain, on peut être soumis à des courants rabattants. Le feu lui-même crée son propre climat, si on veut. Là, les vents dominants en dehors du feu peuvent être de l'ouest. On rentre dans le feu, ça vire d'un côté. L'aile peut virer l'aile peut pencher à gauche alors que tu as les ailerons complètement à droite pour essayer de rééquilibrer. C'est plus à ce niveau-là là, que des fois, il y a peut-être qui peut arriver des accidents, des gens qui vont se mettre dans des situations où ils s'enlèvent leur porte de sortie, si on veut. Là. Donc, moi, personnellement, dans les deux étés que j'ai fait avec le service aérien, j'ai jamais eu le souvenir qu'on se soit mis dans une situation où si le largage fonctionnait pas, ben, il y avait un risque d'accident qui s'en suivait après. Là. On a toujours notre porte de sortie pour éviter une collision avec un autre avion, une collision avec le terrain ou pour éviter d'arroser, de larguer notre voyage d'eau sur des pompiers au sol. Ça, c'est ce qui peut être très dangereux. Ça peut même être mortel.
Hier, le premier ministre Legault a parlé là, d'une sorte de pénurie de pilotes qui s'en vient probablement la semaine prochaine à cause des obligations de repos. Expliquez aux gens qui nous écoutent, c'est quoi le barème entre les heures de vol et les heures de repos obligatoires?
Ben, les heures de vol, c'est que normalement, c'est pas plus que 40 heures. Toute la réglementation là-dessus a changé dernièrement. Là, on en perd notre latin, mais oui, c'est comme un peu un camionneur. Lui, il peut pas faire plus que tant d'heures d'une journée, puis il doit s'arrêter. Les heures doivent être rentrées dans un logbook. Ben, nous autres aussi, là, nos heures sont dans un logbook. Les heures de vol et les heures de travail également. Aujourd'hui, comme là, j'expliquais que c'est pas plus que 8 heures par jour pour faire des feux, mais on peut monter ces 40 heures en séjour de vol. Sur des opérations particulières, on peut monter à 60 en séjour. Jadis, c'était 120 heures en 30 jours. Dans les opérations particulières, on peut aller jusqu'à 150 heures pendant une période restreinte de temps. Comme là, présentement, c'est sûr que les gars doivent être ils doivent aller dans les exemptions pour aller chercher le maximum d'heures on est capable de tirer d'eux, mais le CL-415, c'est une machine, mais le pilote, c'est des machines, là, oui, mm-hmm. Mais c'est pas dans le sens figuré. À un moment donné, les gars, ils n'ont pas le choix. Là. Je dis les gars, parce qu'il n'y a pas encore de filles au service aérien, mais il y a des filles un peu encore ailleurs au Canada là, qui font ce type d'opération-là. J'ai d'ailleurs parlé avec une collègue qui faisait ça récemment. Fait que non, c'est sûr, ça prend un temps de repos, c'est sûr. Puis là, présentement, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas été capables d'engager tout leur personnel pour l'été actuel. Donc là, c'est sûr que c'est les superviseurs, les chefs pilotes, les gens qui normalement font plus du bureau, ils vont se promener sur les bases plus sporadiquement. Ces gars-là, présentement, sont probablement à temps plein autant que tous les autres pilotes de la liste là, du service aérien en ce moment.
Je sens beaucoup d'affection pour les deux étés que vous avez passés à piloter pour la SOPFEU. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui aimerait ça être en train de combattre les incendies?
Ben, c'est sûr que quand on voit des nouvelles comme ça, ça nous donne ça nous pince un petit peu. J'ai une bonne idée dans quel état d'esprit que mes collègues, mes anciens collègues doivent être aujourd'hui. Puis, moi, dans le fond, c'est un rêve de petit gars que j'avais. Là. C'est ça qui m'a fait débuter dans l'aviation. Il y a 25 ans, je suis allé en brousse exprès pour pouvoir voler ça un jour. Mais je veux dire, la vie m'a amené ailleurs. Puis ironiquement, c'est la COVID qui m'a créé cette opportunité-là d'aller voler pour eux là, pendant que j'étais mis à pied de mon ancien employeur. Mais oui, c'est des très beaux souvenirs, c'est une belle gang, puis c'est des gars qui font ça par vocation, ils l'ont tatoué sur le cœur. Fait que c'est sûr que dès que leur temps de repos légal va être fini, ils seront pas priés pour retourner voler, là, je pense pas.
Ben merci pour les explications, M. Rousseau. C'est très clair. Je vous souhaite des bons vols dans votre Boeing.
Bon, ben, je vous remercie beaucoup.
Salut, à la prochaine. C'était Jacques Rousseau. Il a été pilote d'avion citerne pendant les étés 2020 et 2021. Désormais, pilote pour une compagnie aérienne.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.